chers amis, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Je vois vraiment des visages merveilleux ici, dans l'assistant. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu des têtes aussi magnifiques que les vôtres. Ça me fait très plaisir, Baruch HaShem, de partager cette petite conférence avec vous. Je dis petite, je pèse mes mots parce que malheureusement on a un autre shiur après à 8h30 officiellement, mais officiellement on va essayer de se rendre là-bas à 9h. Et j'espère qu'à Kadosh Baruch Hu, pour la première fois de ma vie, je vais réussir à faire une conférence de moins de 2h. Parce que d'habitude je parle longtemps, mais là avec vous je vais essayer d'être expéditif, comme ça tout le monde peut rester bien concentré. On va faire du concentré, Bezrat Hashem, dans les deux sens du terme. C'est pour ça qu'on appelle ça concentré, c'est parce que le gars il doit rester concentré, mais s'il fait trop, il ne peut pas rester concentré. Donc, le concentré, c'est pour les gens concentrés. C'est une petite introduction que je sais vous y attendez pas, mais moi non plus. Bezrat Hashem, Rabotai, je voulais vous dire qu'on passe des moments difficiles. Et vous savez qu'on a été frappé dans la communauté par deux grands drames qu'il y a eu dans cette semaine. Et je suis allé de ville en ville, puisque Baruch HaShem, comme je suis revenu d'Israël, j'ai commencé à faire une petite tournée internationale. J'ai pas pris ma green card et tout ça, ma carte diplomatique. J'ai commencé à partir un petit peu partout, parce qu'il faut aller à la rencontre de nos frères pour leur délivrer le message de la Torah et la lumière qu'on a reçue de nos maîtres. On peut essayer de la faire partir au maximum de personnes. Et moi je vous dis, quand on étudie là-bas et qu'on ramasse les trésors précieux de la lumière de la Torah Kedosha, on pense à tous les frères et les sœurs du Ham Israël qui sont loin et qui n'ont pas forcément accès à toutes ces choses merveilleuses. Alors quand on est en vacances, on aurait pu se dorer la pilule, faire des kishyam souya à la plage, on se fera des shawarma aussi en trois dimensions, on aurait tourné comme ça. Moi j'ai ma femme, c'est une grande tzadikette, elle me permet par Baruch HaShem de tourner un peu partout dans les villes. Je vais à Londres, à Paris, à Toulouse, même parfois on me dit d'aller à New York et tout ça, mais pour l'instant, comme j'ai pas trop fait l'anglais depuis longtemps, je suis pas allé encore. Il faut que je fasse s'il y a des profs d'anglais dans l'assistance, ils peuvent m'apprendre un peu la langue, je vais repartir après là-bas. Mais en tout cas, je vous dis, je vais un peu partout parce que ça me tient beaucoup à cœur. Vous savez, on a un amour du Ham Israël, c'est dans notre cœur et c'est profond, c'est enraciné, c'est ancré. Moi, je vous dis, chaque fois que je vois quelqu'un qui veut se rapprocher, qui veut écouter des livres Torah, même si jamais c'est difficile, on doit laisser les petits enfants. Moi j'ai un petit enfant, il est magnifique et tout ça. Si jamais vous voulez le voir, on peut le manger après. Il est trop mignon et tout. Ça me fait de la peine quand je le quitte. Même là dans la conférence, j'aurais voulu le prendre et tout ça avec moi parce qu'il est vraiment trop mignon et tout. Mais Rabotai, on est dans ce monde, on est venu pour pouvoir œuvrer, pour peiner, pour partager la douleur et la détresse de nos frères et on doit être tous unis. Et c'est pour ça que parfois on ne choisit pas ce qu'on fait, mais on est obligé d'aller pour les frères du Ham Israël pour être à leur côté et tout ça. Donc même si jamais on ne voit pas nos familles et tout ça et que c'est difficile, mais on est là pour eux et c'est normal. Donc Bezrat Hashem, par le mérite de ce sacrifice, ce don de nous-mêmes, j'espère que nos neshamot, elles vont s'attacher et que la lumière, elle va descendre de tous les côtés et que ce ne sera pas des quelques gouttes de lumière pour l'éternité, ce sera des océans qui vont se perpétrer dans la salle de Marseille. Bezrat Hashem. Je voulais vous dire qu'on passait des moments difficiles, je vous l'ai dit tout à l'heure. Comme vous savez, il y a un de vos frères, et donc un de mes frères, puisque vous êtes mes frères, donc c'est aussi un frère à moi, qui est tombé au ski dans le cadre justement du Merkaz Alimoud. Et comme j'étais dans une conférence toute cette semaine à Paris, j'ai fait les shiurim pour sa refoua chez les mains. Il s'appelle Raphaël Moshe ben Brigitte Freha. Shem Ishlach lo refoua chez les mains, refoua tanefel, refoua tabou, bisrouta torak dosha, bezrat Hashem. On a fait des tfilotes pour lui, on a fait des meetings, on s'est assis. Moi, dès que j'ai atterri, je suis arrivé d'Israël, je suis directement allé chez le Rav Ohana pour aller faire les tfilotes et tout ça pour être présent parce qu'il faut partager la détresse et la douleur des frères. Et il y a aussi un de nos frères de Paris qui s'est effondré de 30 mètres de haut. Il s'appelle Jérémy Nissim Ben Michel Hashem Ishlach lo refoua shelema Bezrat Hashem. Donc comme vous pouvez le constater, on voit qu'il y a beaucoup de moments difficiles qu'on est en train de traverser et donc les Bnei Israël, c'est le peuple de la responsabilité. Comme on sait, à chaque fois, les Avotenu Akdoshim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, chaque fois que Kadosh Baruch Hu, il les a appelés, il disait Avraham, Avraham, Yitzhak, Yitzhak, Yaakov, Yaakov, Lashon Riba, qu'est-ce qu'il répondait? Ineni, me voici. Ineni, ça veut dire je suis présent, je réponds présent, je suis là, et je suis le gardien de mon frère, je dois être à ses côtés, je dois partager sa peine et sa douleur, et je dois m'investir pour le sauver, pour lui venir en aide. Et c'est ce qui fait de nous un peuple extraordinaire, qu'on voit des gens qui ont beau être à l'autre bout de l'univers, c'est des Bnei Israël. Des enfants, c'est comme si c'est nos propres frères, Chazé Shalom, qui sont touchés. C'est nos propres frères parce que c'est viscéral, c'est quelque chose qu'on vit dans notre neshama. Il y a un kesher, il y a un lien entre les âmes qui est tellement extraordinaire qu'on se sent comme ça lié par une relation de fraternité avec tout un chacun, et c'est ce qui fait de nous ce peuple merveilleux. Et bien, au Hachem, aujourd'hui, ce n'était pas facile. Je sais que chacun il a dû faire des efforts pour venir et de ça. Il y a le match de l'OM et tout ça, j'ai entendu l'Olympique et tout ça. Et les Mahabouline qui sont dans les tribunes là-bas, et nous on est là, en bouteille, en train de se. Dans les tribunes, c'est d'autres tribunes différentes. Et on est en train de tenir le monde. Le monde il est en train de reposer sur le souffle des enfants qui étudient la Torah, des jeunes qui étudient la Torah. Et sachez que le mérite il est encore plus grand quand on fait Messirut Nefesh, qu'on se bat et que c'est difficile de venir et que malgré tout on se mobilise. Vous imaginez pas le salaire extraordinaire qui est là et le grand chesed qu'on fait pour les gens qui sont en difficulté, que ce soit ces deux frères dont on a parlé ou tous les autres qui sont en grande difficulté, ça c'est un grand chesed pour eux. Je voulais vous parler justement de ce que le Hafetz Chaim nous dit. Le Hafetz Chaim, il a écrit, qui était la plus grande lumière du Ham Israël, un très très grand Talmid Chacham, un grand tzaddik. Il y a sa photo ici, il y en a beaucoup qui doivent connaître déjà le Hafetz Chaim, et ça ne mange pas de pain de le voir, puisque c'est marqué que vos yeux verront les visages de nos maîtres. Le Hafetz Chaim, c'était le maître de la Torah juste avant la Shoah. Il a légiféré sur Shmirat HaLashon, c'est toutes les lois relatives au langage, et c'était vraiment un maître d'une Gdusha et d'une grandeur extraordinaire. Juste avant la guerre, puisqu'il était dépositaire du roi Hakodesh, du souffle et de l'inspiration divine, il a dit au Bné Israël qu'on s'engageait dans des pages sombres et obscures de l'histoire, et il a appelé à la solidarité, à la mobilisation générale de tous les Bné Israël. Et il a écrit une lettre en 5664, c'est-à-dire il y a maintenant plus de 100 ans. Et là-bas, dans cette lettre, il disait que comme on était en train de traverser des pages très difficiles, il fallait qu'on se mobilise et qu'on soit tous ensemble, les femmes, les enfants et les hommes, dans les batei knessiot et les batei midrashot, dans les synagogues et les lieux de culte, pour venir, ne serait-ce que quelques instants, répondre au kaddish et à la kdusha. Ça veut dire, vous venez, vous sortez de l'école, vous sortez de l'université, ou d'où vous êtes et tout ça, vous allez quelques instants à la synagogue, et toute la communauté s'unit, et on crie de toutes nos forces, « Amen, Yeshem, Rabba, Mevarach », au Kaddish, et c'est marqué la Gemara dans Maseret Shabbat, à la page 119, elle dit tout celui qui répond Amen Yeshemer Abba de toutes ses forces, il déchire les décrets qui ont été pris contre l'âme Israël, même s'il y a un décret, il a été pris depuis 70 ans. Si on crie de toutes nos forces cette chose-là, et qu'on est convaincu qu'Akadosh Baruch Hu peut nous sortir de la pénombre, on peut déchirer tous les décrets qui sont contre nous. C'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et de la même façon pour Baruch Hu et Hashem Vouar. On est en train de dire la Gdusha, on est en train de dire ces choses-là. Même les enfants, ils disaient qu'il fallait qu'on s'unisse et qu'on se mobilise. Rabotaï, c'est la meilleure façon de faire la guerre. Nous, notre guerre, elle est pacifique. Vous allez voir ce qui se passe dans les mosquées. Vous entendez les discours qui sont prêchés là-bas, des discours de haine radicale et viscérale contre le peuple d'Israël, contre les peuples des nations, contre les infidèles et tout ça. Nous, on entend dans nos batei knessiot et batei midrashot, c'est quoi la guerre? C'est qu'on vient et qu'on crie vers Akadosh Baruch Hu de nous protéger, de nous sauver. On vient, on crie pour qu'on fasse teshuva et qu'on se rapproche de la Shemit Barah parce qu'on sait que c'est lui le patron des guerres. Ishmil Hama Hashem Shemo, c'est lui le patron de la guerre, c'est lui le maître de l'univers. Si jamais on est en paix avec lui, le monde entier il tremble devant nous. Les peuples des nations verront que tu as le nom sur ta tête et ils te craindront. Comme ça, c'est marqué dans le verset dans le prophète. On parle des téfilines de la tête. Avant, nos soldats ils sortaient avec les téfilines parce qu'ils savaient que c'était Beshem Hashem Naasev Natsilir. Avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, on va sortir et on va l'emporter. C'est cette guerre à Botaï, c'est cette guerre extraordinaire contre nos midot, contre nous-mêmes. On entend dans les synagogues. Des gens qui parlent des midot tovot, des rabbanim qui nous parlent pour se renforcer contre l'orgueil, contre la colère, contre le fait de mépriser son prochain, de lui faire honte. Ça, c'est la vraie guerre, Rabotai. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas déplacer le centre d'intérêt. Et etc. Toujours, il veut nous faire croire, oui, la guerre, elle ne se situe pas à ce niveau, et tout ça, elle se situe avec d'autres personnes. On va voir ce que les autres, ils ont à se reprocher. Non, la Torah, elle te dit, remets-toi en cause à toi, renforce-toi, purifie-toi, purge-toi de tous tes défauts, remplis-toi de lumière. Et avec cette grande lumière dont tu seras le dépositaire, tu chasseras toute l'obscurité du monde. C'est la guerre contre le Yitzhara, cette guerre extraordinaire que l'homme doit mener du premier jour qu'il vient dans ce bas monde jusqu'au dernier jour. Et donc le Hafetz Chaim appelle à la solidarité générale. Et aujourd'hui qu'on est en train de passer des pages obscures, moi vous savez, j'étais à l'époque, j'ai fait la maîtrise de droit international et tout ça, et de tordu international, pardon. Je croyais avant que c'était le droit international, après j'ai vu les gars comment ils sont complètement mahboules, alors j'ai dit ça c'est pas le droit ça, c'est le tordu. Après je suis venu dans la yeshiva, j'ai compris ce que c'est la maîtrise de droit international. On a étudié avec des gens qui sont de tzadikim, bedoshim et théorim. c'est des lumières extraordinaires qui savent respecter leurs femmes, qui savent parler avec leurs enfants, qui ont de l'amour pour leur prochain, qui nous apprennent le kivu d'Avaim, de respecter tout un chacun malgré sa différence, d'aimer chaque membre du Ham Israël. Rabouzaï, je vous dis, quand j'ai vu ces lumières devant mes yeux, j'ai eu envie de faire partager ce que j'ai reçu comme enseignement au maximum de personnes et tout ça. C'est pour ça qu'on a écrit des nuits et des jours et des nuits et tout ça. On écrit des shiurim, on les envoie. D'ailleurs, vous allez me laisser tous vos mails et tout ça, comme ça on reste connectés. C'est des feintes et tout ça, des techniques et tout. Parce que vous êtes tellement. Je bois une petite lichette d'eau pour vous permettre un peu de rigoler, de vous évacuer un peu la pression, parce que je vous parle de choses sérieuses, en même temps on peut rigoler un peu, parce que c'est comme ça que le cœur il s'ouvre et tout ça, et le cours il rentre après. Le cœur il s'ouvre, le cours il rentre. Ça, c'est une relation interactive comme ça. Vous comprenez, donc je vous le disais, moi je vous ai tout de suite aimé, apprécié quand j'ai vu tous vos visages là-bas, même si on est tous arrivés en retard à cause de ces marboulim qui boivent de la bière dans les tribunes des Indians et tout ça, les Indiens. Et nous on est. Je connais le COP et tout ça, ne vous inquiétez pas. Moi aussi j'étais un supporter de Basile Boli à l'époque. Et avait dit pelé avec sa nuque là-bas. Vous vous rappelez qu'il avait le. Je suis sûr, je sais pas s'il y en a qui on se rappelle, il avait un petit truc ici, il y avait Dipelé, il avait la queue de rat ici. Moi aussi, quand il y a eu la finale, la coupe là-bas, la coupe d'Europe et tout ça, Milan AC, que Basile Boli a marqué le but avec la tête, je me suis roulé par terre et tout ça. Aussi. Maintenant, je me roule par terre pour autre chose. Quand j'entends de la lumière de la Torah, je vous dis, dans ma vie, j'ai fait des choses incroyables. Je vous dis, j'étais à l'université au haut niveau d'université, j'ai eu des majorations dans plein de promotions et ça, avec des gens qui me prenaient un peu pour un illuminé. Je disais, vous, j'avais on l'appelait Koulibaly. Donc si jamais il s'appelle comme ça, vous imaginez de quelle couleur il était. Parce qu'on est en train de parler de sa famille, peut-être qu'il est de la famille d'Abidi Pelé, de Basile Boli, puis c'était deux cousins et tout ça, puisqu'ils avaient la même grand-mère. Donc vous comprenez, les gars, ils me disaient, vous monsieur Abergel, c'est mon nom. Hier je m'appelle Yankel Abergel, j'ai oublié de me présenter, mais c'est pas grave, je vous aime quand même. Ne vous inquiétez pas. Il me dit, oui, vous, monsieur Abergel, vous avez un regard sur le droit positif très, très, très atypique. Je lui dis, oui, monsieur, nous, on a accès à la version originale des textes et tout ça. Vous n'avez pas eu accès à ça. Nous, on a la Torah depuis 3330 ans. On était là-bas au Mont Sinaï. Vous, vous êtes un remake. On sait que la VO, elle est toujours mieux que le remake et ça. Donc, ne vous inquiétez pas si on a une petite longueur d'avance. Il m'a dit, je comprends pourquoi le maître dans cette profession qui fait autorité dans la matière est un de vos confrères. Il a accès à des sources que nous n'avons pas. Je lui ai dit, vous avez tout à fait compris. Ça, moi, de toute façon, quoi qu'il en soit, le gars, il me mettait des 18 et des 19 et tout ça. Je lui disais, quoi que vous, merci beaucoup. Et tout ça, je serais dans ses bras. Il était magnifique, celui-là. Et je vous dis, c'est un génie, le gars. C'est un génie. Le type, il connaît, il peut te réciter son... Il a un livre de 600 pages devant lui. Il est capable de te dicter mot à mot ce qui se passe sans regarder. C'est un génie. Mais il a compris, le gars. Il a compris que la lumière de la Torah, même lui, il était... Si déjà lui il a compris Rabotai, combien nous, qu'il est kartov, natati lachem, torati, altazovu. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, je vous ai laissé un bon trésor, ne l'abandonnez pas. Et qui c'est qui appelle ce trésor? Il dit le Chafetz Chaim. Il dit, qui c'est qui appelle ça un trésor? C'est pas le paysan du coin là-bas qui a rien à manger. C'est pas là-bas le patron de tel ou tel endroit qui a toujours un gars plus loin que lui et plus grand que lui. C'est le patron des patrons de tout l'univers. Et si déjà, lui, il appelle ça un trésor, à la Khatkama Bekama, pour nous qui sommes des paysans de la campagne, des plans de cul et les siens. Je connais les contrées de ça, de Marseille ou de Balzac. Et oui, je vois qu'il y en a qui ne connaissent pas plans de cul parmi vous, mais c'est pas grave. J'avais des amis à l'époque, et tout ça, je vous raconterai ma vie, mais j'ai pas trop le temps ce soir. Mais vous venez en after, on fait ça à partir de minuit et de ça à la maison, on fait quelque chose de sympathique. Ou si jamais vous êtes encore là en train de manger les falafels, je viendrai avec vous partager une petite boulette parce que j'aurais pas mangé depuis longtemps. Vous comprenez, mes frères, ce que je veux vous dire, c'est que voilà, c'est qu'il est karton natati lachem, Akadosh Baruch Hu, il a dit que ce trésor il était bon, et si Hachem il le qualifie de tov, alors alachat kama vekama pour nous, Rabotai, on est inférieur à lui. Une marchandise, toujours quand le gars il vient, il te dit, ouais, j'ai une marchandise de malade et tout ça, le paysan il te dit, j'ai une marchandise de fou et tout ça, il t'amène là-bas sa banane et tout, toi tu viens avec ton diamant, tu lui dis, Habibi, qu'est-ce que tu parles avec ta. Tu fais pas le poids avec ça, t'es en train de me parler de banane, moi je te parle de diamant, donc y a pas. Mais Akadosh Baruch Hu, si lui-même, Yervodo Gatsmo, qui est le patron et le maître de l'univers, il appelle la Torah Tov, c'est qu'elle est Tov pour tous les Bnei Israël. Pour le gars le plus loin, comme le gars le plus grand Talmid Chacham, la Torah, elle peut toucher les profondeurs de son être. Elle peut rayonner dans son intérieur. Elle peut le toucher au plus profond de lui-même. Et moi, je vous dis, je suis passé par tous les chemins. J'étais dans le monde de la night, d'Ibissa et tout ça, de toutes les formes de tactiques et tout ça, les danses et tout ça. Vous savez, les gars, je le dis toujours aux gens, parce que comme ça, après, ils se souviennent de moi, et tout ça, ils disent de moi, ils vont rattraper. Ils sont toujours en train de danser comme ça, les gars, et tout ça, ils me savent, peut-être qu'ils pensent qu'il y a dans son vidéo. Avec Eric Morio et les siens, vous le connaissez, ils sont en train de danser, les gars, là-bas. Vous savez toujours pourquoi ils dansent vers le haut? Parce qu'ils montrent ce qui va leur arriver quand ils arrivent en haut. Ça, ils se montrent parce qu'ils vont devenir un shawarma là-bas qui est en train de tomber. Ça veut dire. Je sais, vous êtes venu pour un chiot de Torah, vous êtes arrivé chez un spectacle de one-man show et ça, des feintes et ça, des drives, mais au début, je fais des feintes et tout ça, et après, je commence à rentrer des bombardements, des feintes, des tactiques et tout ça. N'inquiétez pas. Donc, je vous disais, je suis passé par tous les chemins, et moi, je suis crédible, Rabotai, je suis pas né à Meacharim, je suis pas né à Bnei Brak. Moi, j'étais un homme comme vous, j'étais à l'université, j'ai mis des reprises de volée dans la lucarne, je me suis roulé par terre à la Coupe d'Europe, j'ai bu du champagne quand Zinedine Zidane, il a mis la tête entre les jambes du gars et tout ça. Moi aussi, j'étais fou, j'étais un grand maboule aussi à l'époque. Mais je peux vous dire, Rabotai, il n'y a pas une joie comme la Simcha de la Torah, et vous le voyez, j'ai pas besoin de vous parler, j'ai pas besoin de décrire, vous voyez comment je suis maboule et tout ça. C'est grâce à la Torah, Rabotai, c'est elle qui m'apporte cette joie que je veux communiquer à mes frères, que je veux partager avec eux. C'est la chose la plus merveilleuse du monde, Rabotai, la Torah. C'est quelque chose de merveilleux. Moi, quand j'étudie, je suis avec mes maîtres, c'est des sommités de la génération. J'ai un rébé qui était le Ravruta du Rav Shach. Vous connaissez le Rav Shach qui était le dépositaire de toute la lumière de la Torah dans la génération 100 ans de Torah, de 3 ans à 103 ans. Il a étudié vrai jusqu'au dernier jour de sa vie pour la Torah. C'était le Rosh Yeshiva de Poniovitch. Moi, mon maître, il était 30 ans avec le Rav Shach. Et moi, je vous dis, je me suis rapproché, renforcé quand j'ai eu des grandes épreuves dans ma vie et tout ça. J'ai mon papa qui était malade, ils ont dit qu'il allait vivre pendant 6 mois. Il a vécu pendant 6 ans par le sproute du fait que j'ai consacré ma vie à Hachem. Et chaque fois que je vous dis, chaque fois mon père il me disait, chaque fois que tu te souviendras de tes frères et tu iras à leur côté, même si un jour tu deviens un lion dans les limouds et tout ça, que tu bénéficies de toute la lumière de la Torah, n'oublie pas tes frères qui sont loin et qui n'ont pas eu la chance d'étudier. Va à leur côté et tout ça. Et je vous dis, donc une fois quand je suis rentré dans la Torah, j'ai commencé à étudier, cette lumière elle est rentrée en moi. Et je vous dis, j'avais envie d'embrasser les rêves, de courir dans la rue, de grimper dans les arbres, de me rouler par terre. Parce que je vous dis, la Torah, c'est quelque chose de merveilleux. Je vois j'aurais pu être un tordu international, je devais faire une fonction de diplomatie et tout ça, je devais rentrer dans la diplomatie, dans les relations internationales et tout ça, et travailler dans les ambassades, dans les trucs. Et j'ai des photos avec tous ces marboulim et tout ça, Moshe Katsav, Latréou Dolmer, tout ça, dans les toilettes chez moi, ils sont les photos. Si un jour vous venez à la maison et tout ça, parce que je vois qu'on a une soirée israélienne, donc il faut parler un peu de nos des populations et tout. Donc si vous voulez un jour venir et tout ça à la maison, je vous montrerai toutes les photos. Mais je vous dis, quand j'ai vu la différence qu'il y avait entre ceux-là, qui sont des gens qui sont accusés des pires choses qu'ils soient, et quand j'ai vu la lumière de nos maîtres, qui parlent peu mais qui agissent beaucoup et qui sont des gens extraordinaires. Rabotai, qui sait qui peut respecter sa femme s'il n'étudie pas la Torah? Qui sait qui peut éduquer ses enfants s'il n'a pas un derrière pour pouvoir les guider sur le bon chemin? On voit tellement de gens qui sortent complètement du chemin aujourd'hui. On voit tellement de gens qui sont dans des situations difficiles, tellement de gens qui sont en quête du bonheur, en quête de la sérénité, en quête d'un monde meilleur et tout ça. Si c'est pas la Torah de chaque Akadosh Baruch Hu, il nous aime, on est ses enfants, il nous a donné le mode d'emploi pour bien vivre. Le guide du bonheur, le mode d'emploi pour être les plus heureux du monde. Il n'y a pas 36 000 chemins, il n'y en a qu'un seul, c'est le chemin qui mène à Kadosh Baruch Hu. Plus on est proche de lui et plus on est heureux, plus on s'éloigne de lui et plus on est malheureux. On voit des gens, je vous dis, je rencontre des milliardaires et tout ça, je connais des gars de Wall Street, je fais des conférences et tout ça à Londres, à la City. Je vois des types, ils ont des milliards et tout ça. Et les types, ils entendent une parole de Torah, ils deviennent fous. Ils me disent, mais combien on est heureux d'étudier, combien ça nous manque. On a beau être les plus riches, on a beau avoir beaucoup d'argent, mais voilà, notre frère, celui-là, là-bas, c'est un maboul, il joue aux cartes. Là-bas, il joue au rami ou au tarot, là-bas, avec des chèvres du PMU. Là-bas, ils sont en train de boire des girafes de bière. L'autre, là-bas, il se drogue, Halsi, Muslim, là-bas, il est en train de se faire des petits joints de tous les côtés. L'autre, il se met des substances hallucinogènes. L'autre, il est ici. L'autre, il est en dépression. Habibi, comment c'est possible? Et toi, tu vas là-bas, tu vois le petit enfant là-bas de Meacharim. Ouais. Il a 3 bambas dans sa poche, il a 2 shekels, l'autre il a 600 000 euros. Le petit de Meacharim, il est le plus heureux du monde, il rigole, il fait de la corde à sauter dans la rue, il s'amuse, il récite des Mishnayot à ses amis, il est en train de s'amuser avec les photos des Chachamim. Vous savez, les cartes là que tu les fais sauter de tous les côtés, il voit des talmides des Chachamim toute sa journée, il est heureux. Et l'autre, alors qu'il a rien, l'autre, il n'a pas d'argent dans sa poche. Et l'autre, il a des milliards et il est malheureux. Comment t'expliques ça? C'est parce que Rabotai, celui qui vit dans la vérité, il est heureux, celui qui vit dans le mensonge, il a beau avoir tout, mais il a rien. L'autre, il a rien, mais il a tout. Il a Kadosh Baruch Hu, c'est son Chelek. C'est la chaîne Idbarach, Rabotai. Nous, notre Neshama, c'est une Neshama de Shah et Teora. C'est la Neshama qu'Akadosh Baruch Hu, il a insufflé en nous. Ça ressemble à quoi? Je vous fais une introduction incroyable, c'est un truc de fou. Même moi, je ne m'y attendais pas à celle-là, c'était un truc de fou. Parce que je n'avais pas décidé de parler de la foi, je suis en train de vous parler de la vie et tout ça, mais ce n'est pas grave. Comme je vous aime, alors je vais partager ma vie et tout ça, parce que vous êtes de la famille maintenant. Les Chaim, comme on dit chez nous. Vous ne m'avez pas amené d'eau, mais j'ai pris de l'eau du robinet à l'ancienne, ce n'est pas grave. Parce que dans les soirées israéliennes, il n'y a jamais d'eau, parce qu'en Israël, il n'y a pas d'eau. Tu peux avoir toutes les boissons du monde, tout ça, la limonada, la jus de pomme. Le pamplemousse et tout ça dégueulasse là-bas. Mais si tu veux de l'eau, tu peux pas. Y a pas de... Donc si vous voulez de l'eau, si vous mariez en Israël, vous m'appelez comme ça, je vous amène des bonbonnes. C'est avec moi. Même je viens avec un camion d'eau d'Éden et tout ça, ce sera mon cadeau. Les attachés. Blineder, bien sûr, ça ne mange pas de mal. Alors vous comprenez, j'étais en train de vous expliquer un machal que j'ai entendu du Hafetz Chaim, machal extraordinaire du reste. C'est l'histoire d'un homme, il avait une fille unique. C'était un roi. Cette fille, elle était très gâtée, on imagine quelle est la jeunesse et l'enfance qu'elle a eue et tout ça. C'était une enfance toute rose, comme on dit chez nous. Et une fois, elle s'est mariée, elle ne trouvait pas de patane, et on a trouvé là-bas un paysan de la campagne, il a voulu se marier avec elle. Et le père, qui était désemparé, il a dit, bon, je suis obligé de donner à ce patane-là. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit, celui-là? Il a voulu la prendre, il a voulu faire toutes sortes de cadeaux et tout ça. Et le gars, il commence à amener toutes sortes de cadeaux, il amène là-bas... Il amène de l'or, il amène de l'argent. Il n'avait pas d'or et d'argent celui-là. C'était un maboule. Il n'y avait que des fruits et des légumes. C'était le cousin de José Bové là-bas, avec la moustache. Vous le connaissez, José? Je savais que vous alliez rigoler. Donc, il a un côté de la moustache. Al-Halet, là-bas. Donc, le gars, il avait la moustache et tout ça. Il venait, il amenait des fruits, des légumes et tout ça. Mais la Kala, il voyait qu'elle n'était pas heureuse. Il y a quelqu'un, il est venu et il a dit, Habibi, comment tu veux rivaliser? Celui-là, celle-là, là-bas, la belle au bois dormant, elle était très réveillée du reste parce qu'elle voulait beaucoup de cadeaux et tout ça. Je ne pouvais pas l'endormir avec des fruits et des légumes ni avec du gingembre et tout ça. Pourtant, ça a des vertus que je peux faire des somnifères avec. En tout cas, je vous dis, j'invente des feintes et tout ça, comme ça on reste connecté. On a des SL avec Akadosh Baruch Hu et entre nous parce qu'on est ensemble à Botaï. Donc le gars, il dit, j'essaye de faire toutes sortes de choses et j'y arrive pas. Il a dit à Marboul, Hamar Bourico, il a dit depuis le début de sa vie, celle-là elle reçoit des diamants, des perles, des diamants, de l'or et tout ça. Est-ce que toi tu peux rivaliser avec tes fruits et tes légumes? Faut que tu lui amènes des choses. Mais il a dit, mais moi j'ai pas les moyens de ça, je peux pas faire une chose pareille et tout ça. Il a dit, fais ce que tu veux, Habibi, c'est ton problème. C'est pas à moi de le solutionner, tu t'es marié avec elle, tu dois l'honorer de la même façon. Ah, vous savez, c'est la même chose. Nous, on est la fille d'Hachem Idbarar, on est les enfants d'Hachem Idbarar. Hachem nous a donné. Sa fille, pardon, c'était la Torah Akdosha. Nous, on est le Khatan qu'Hachem il a trouvé dans la campagne là-bas. Il y avait toutes sortes de paysans, on était les moins pires des paysans, il nous a pris à nous. Nous, on a accepté la Torah. Et la fille d'Hachem Idbarar, c'est la Torah Akdosha. Imaginez-vous comment elle s'est délectée dans le monde de la vérité, comment elle était heureuse. Elle jouissait de la lumière divine, elle jouissait de l'éternité et du Ensof. Est-ce que tu crois, toi, le Ma'boul, que tu vas venir avec ton argent, avec tes fourrures, avec toutes sortes de ch'touyotes? Avec tes fruits et légumes là-bas, du paysan, tu crois que tu peux acheter cette neshama et la réjouir et la rendre heureuse? La seule façon de la réjouir, mes chers frères, c'est d'étudier la Torah, de faire les mitzvot, parce que c'est cette chose extraordinaire qu'elle a été habituée. Si tu ne lui donnes pas, elle ne sera pas heureuse, elle va toujours être triste. Et on sait que si ta neshama elle est triste, alors toi aussi tu es triste, parce que le capteur des sentiments, des passions et des pulsions, du fait que l'homme il a le bien-être, c'est la neshama. La neshama, c'est une étincelle de la Kadosh Baruch Hu, c'est le prolongement de la Kadosh Baruch Hu. Donc pour faire en sorte que la neshama elle soit heureuse, il faut faire la volonté d'Hachem. Si tu fais la volonté d'Hachem, tu seras heureux. Si tu ne fais pas la volonté d'Hachem, puisque c'est le capteur, cette neshama, elle est confondue avec Hachem Idbar, c'est une étincelle divine qu'on a en nous. Tu auras beau avoir les milliards, mais tu ne peux pas la séduire avec ça. De la même façon que ce paysan, il a beau amener tous les fruits et légumes du monde, même les OGM là-bas, la tomate carrée, tout ça qu'ils ont fait en Israël. Ils ont fait une tomate carrée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la tomate carrée, la tomate cerise, vous la connaissez, ça. C'est pour jouer à la pétanque avec, parce que je sais que vous avez le cochonnet ici à Marseille, et le cochonneau aussi, juste un bridou et le sien. Donc le gars, je sais qu'avant c'était le sponsor et tout ça du TFC, parce que moi je viens de Toulouse, ouais, c'est pas grave. Ils ne sont pas très forts, alors il ne faut pas trop parler d'eux, parce que je vais me faire tabasser sinon après. Donc ils sont venus, tu lui amènes toutes sortes de tomates, toutes sortes de choses, tu ne peux pas le séduire avec ça, il faut le séduire avec la lumière de la Torah. Une fois que tu fais rentrer de la lumière, Ramadan, comment vous expliquez ici que toutes ces filles qui sont là, moi je les ai jamais vues de ma vie, et ces garçons, il y en a beaucoup, j'en connais, c'est des frères à moi, je les connais, il y a un frère à moi de Toulouse qui est là depuis longtemps, et je viens parfois, je vous assure, je vais dans des villes et tout ça, je retrouve des gens qui sont complètement perchés, je ne les ai pas vus depuis des années et des années, Et les gars, ils sont pas à la yeshiva, les types, ils sont en train d'étudier. L'autre, il est là-bas au ministère de la Justice. L'autre, là-bas, c'est un... fait la sauferesse. L'autre, il est chacun. Et on vient, et qu'est-ce qui nous réunit et qu'est-ce qui nous unit tous? C'est la Torah. Sans la Torah, mais ça y est, chacun, il prend son chemin. Il est là, il y en a un qui va ici, il y en a un qui va là. C'est fini, kol tov, shalom à l'Israël. On s'est séparés. Et là, la Torah, elle nous permet de tous nous réunir parce que c'est notre point commun à tous. Rabotaï, le peuple d'Israël, quand il est uni et qu'il est fort avec sa Torah, qu'il est ensemble, c'est la seule façon, Rabotaï, on voit en Israël. Les crises qu'il y a là-bas, chacun, celui-là il a lâché la kippa de cette couleur, l'autre il n'a pas de kippa, l'autre c'est un marabout, l'autre c'est celui-là. Tu vois toutes sortes de gens différents. Si jamais on avait compris que la seule façon de faire l'unité, c'est de se réunir autour de ce qui fait notre point commun à tous. On n'a pas de point commun, on n'en a qu'un, Rabotaï. C'est la Torah. Combien d'Avat Israël y aurait? Combien d'amour du prochain? Quand vous voyez des frères qui sont loin et tout ça, transmettez-leur la lumière, éclairez-les, faites-les venir à des shiurim avec vous. Sanctifiez le nom d'Hachem en étant exemplaire par le comportement que vous avez reçu de la Torah. Moi je vous dis, j'aurais pu toute ma vie croire que j'étais quelqu'un, quelque chose, et on me faisait croire, oui, tu vas devenir un bon et tout ça, tu vas commencer à faire des foules et tu vas faire toutes sortes de choses, des trafics d'influence, des choses. À Bodaï, j'ai pris conscience de ce que j'étais, qu'une petite poussière dans le monde, qu'une petite poussière dans l'humanité. Quand tu prends conscience de ta petitesse, tu peux te mettre au niveau de l'autre et tu peux l'aider et le rehausser. Mais quand toi tu crois que tu peux prendre chacun de haut, qu'est-ce que tu crois que tu vas aider quelqu'un? La solidarité, c'est une question de dignité aussi. Si l'autre, il voit que toi, tu le prends de haut et que tu commences à lui parler et que toi, tu fais comme ça, tu commences à faire le parrain de la mafia, Hal, Tony Montana et les siens, il dit, est-ce que tu crois que toi, l'autre, tu pourras l'aider? Il faut se mettre au niveau de l'autre. Et ça, c'est la Torah. La Torah, c'est un élixir de vie ou un élixir de mort. Celui qui est humble, il fait rentrer la lumière de la Torah. Plus il fait rentrer la lumière de la Torah, plus il se sent petit. Plus c'est une goutte dans l'infini. Mais celui qui est orgueilleux, même s'il étudie la Torah, ça l'aidera pas. Il dit pourquoi? Parce que plus il va étudier, plus il aura de quoi s'enorgueillir et plus il aura de quoi écraser les gens qui sont autour de lui. Après cette petite introduction, je vais en venir dans le vif du sujet, comme on dit chez nous. Juste, oh là, purée, c'est la tannée là. Je vois l'heure et tout ça, j'ai un peu froid, mais c'est pas grave. Je voulais vous parler de la Emouna et du Bitachon, de la foi et de la confiance qu'on doit avoir à Hachem. Vous savez, l'épreuve de la fin des temps, mes chers frères. Et vous pourrez retrouver Bedrat Hashem, les shiurim, soit sur le livre, soit sur ce CD là. Ce CD, c'est 25 shiurim, ça fait presque 40 heures de bombardement intensif. Si vous voulez vous prendre à Kaboul, c'était de la littérature à côté de ça. C'était des gifs qui partent chaque fois là, il y a des coups de coude, des gifs, des hypercoutes, de tout. Il y a aussi de l'amour aussi, parce qu'on fait véhiculer ce message de la Torah avec beaucoup d'amour. Je vous dis ça, pas parce que je veux que vous preniez le CD, parce que je vous aime et tout ça, vous pouvez aller sur internet et tout ça, vous pouvez écouter les shiurim, www.toradelumière.com, c'est nous. C'est moi, vous allez voir ma petite face et tout ça, Helen, Tony Montana et tout ça. La mise en scène et tout, beau gosse avec la cravate, ça, la gomina et tout. Donc je vous dis ça parce que comme on va partager un moment très court et ça, je veux que vous puissiez continuer à me voir et comme ça vous m'envoyez des questions et vous me dites voilà, il se passe ça dans ma vie et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Et moi je vous dis, ah ouais, je vais demander au Rebbe et tout ça, il va vous dire quoi faire et vous allez être heureux dans votre vie. Parce que je vous aime tellement que je suis triste de me séparer déjà de vous. Donc je vais essayer de vous parler rapidement et si jamais on n'a pas eu le temps de beaucoup parler, alors vous aurez toute ma marchandise, là vous la prenez avec vous, bien attaché. Après pour les roubles, on s'arrange dans le hall à ma bouche, bien attaché. Alors écoutez, je voulais vous parler de la Emouna et du Bitachon, de la foi et de la confiance en Hachem, parce que c'est de ça que dépend la survie du peuple d'Israël à la fin des temps. On sait que la Gemara dans Maseret Makot, c'est un traité qui porte sur celui qui doit recevoir des coups et tout ça. Quand il a fait toutes sortes de fautes, tout ça, si vous voulez, on va étudier la Gemara ensemble, je vous expliquerai à tête reposée, parce que là, j'ai pas trop le temps de vous dire tout ce qui se passe dans la Gemara, c'est un peu complexe. Mais là-bas, à la page Kaf Dalet Amoud Alef, à la page 24, folio A, la Gemara là-bas dit que les Chachamim de la génération se sont réunis et ils ont commencé à voir quel était l'axiome de base sur lequel il fallait concentrer toute sa kavana et toute sa force et tout son esprit pour pouvoir faire en sorte de garder toutes les mitzvot de la Torah à la fin des temps. Et Habakkuk, donc chacun il a dit au début il faut garder 613 mitzvot et tout ça, l'autre après il a dit il faut garder 10 mitzvot, David Ameler dans le Tehilim 40, après il y a eu d'autres prophètes, ils ont dit Ezra, Nehemia, chacun il est venu, il a commencé à parler. Jusqu'à ce que vient Habakkuk, le prophète, le dernier, il a dit Hachemid ala Habakkuk alachat. Il est venu Habakkuk et il a résumé les 613 mitzvot en un seul principe sur lequel il faut se concentrer et focaliser toute notre attention et tout notre cœur. Ve tzadik, ve emunato yichye. Le tzadik, par sa foi, il vivra. À partir du moment où toi tu renforces ta foi et que tu te renforces dans la foi, Alors, sache que tu pourras tenir et que tu pourras vivre et que tu pourras faire véhiculer la lumière avec toi et que tu pourras garder toutes les mitzvot de la Torah par la foi. Comme le Tehilim Kuf Yutet 119, il dit là-bas, Kol mitzvotecha emuna. Toutes les mitzvot d'Hachem sont emuna. Si quelqu'un il a une foi très très forte, qui se travaille sa foi, qui la réchauffe à tous les égards, dans n'importe quelle situation de la vie, il pourra réussir à être avec Hachem, à se renforcer avec Akadosh Baruch Hu et à garder toutes les mitzvot. Parce que si jamais je crois, j'investis, je m'investis dans cette chose-là. Et quand est-ce que tu vois si quelqu'un il a la foi ou s'il n'a pas la foi, c'est comment il pratique la Torah. Il y a des gars là-bas, ils viennent, ils font les yuyu avec leurs bracelets rouges là-bas, ils font youlouf, les Indiens, tout ça, de Marseille, des tribunes. Il y en a d'autres, ils se roulent par terre, ils allument des bougies. L'autre là-bas, il dit, ouais, mais mon arrière-grand-mère, elle était là-bas en Algérie et tout ça. C'est à Mogador, au Maroc et tout ça. C'était une très très grande rabbinite et tout ça. Elle faisait des incantations et tout. Il dit, Habibi, t'as beau me dire toutes sortes de choses, venir avec ton bracelet, avec toutes tes choses. Est-ce que tu sais qui c'est qui s'appelle Ma'amin Bachem? Celui qui croit, c'est celui qui fait. Est-ce que tu veux voir le capteur de la Emouna? C'est celui qui fait. Si moi je vous disais, parce que j'habitais là-bas à Wall Street, Rahmanan Islan, Hazé Shalom, que ça m'arrive jamais, parce que c'est pas grave, Wall Street, ils sont encore en Égypte, ils sont pas sortis encore d'Égypte et tout ça. Je vais à Londres cette semaine, je vais leur dire la fin, tout ça, ne vous inquiétez pas, je leur dirai au ciel. Parce que 20 heures sur 24, travailler, quand tu peux pas t'occuper de ta femme et tes enfants, que tu peux pas les éduquer, ça s'appelle que t'es un esclave égyptien, Habibi. Donc imaginez, moi j'aurais été à Wall Street et je vous donne un placement là-bas, je vous donne un bon conseil pour le placement. Tu me dis, ah ouais, j'ai la foi en toi et ça, je te crois sur parole et tout ça, c'est vrai et tout. Et quelques jours plus tard, je dis, alors Habibi, t'as acheté, t'as vu comment elle a pris de la valeur et ça là. Il dit, oui, je te crois et tout ça, mais j'ai pas fait. Il dit, ah, c'est pas possible. Si jamais tu me croyais, alors t'aurais fait. La même façon avec Hachem. Si, c'est Rav Yitzhak Cohen, le grand sadique de Marseille, qui m'a dit cette chose-là extraordinaire. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, il a passé la Shoah, il pourra vous renforcer sur la foi d'une façon incroyable. Il a écrit aussi un Sefer qui renforce beaucoup dans les périodes obscures de se renforcer avec Hachem. C'est quelque chose de merveilleux. Ça s'appelle la promesse. Donc je vous dis, il m'a dit, si jamais toi, tu avais confiance dans la Torah, tu avais confiance et que tu avais la foi, alors tu ferais les choses. Si tu fais pas, c'est que tu ne crois pas entièrement. Si tu savais que je te donnais un numéro gagnant du loto, est-ce que tu n'irais pas jouer? Si tu n'as pas joué, c'est que tu ne me prenais pas au sérieux, de la même façon. Tu veux vérifier si quelqu'un il a vraiment une foi intègre et pure, vérifie comment il est proche dans son accomplissement de la Torah et des mitzvot. Et Habakkuk, il est venu, et c'est pour ça qu'il a dit « Ve tzadik, ve munato yichye ». Il n'a pas dit « Ve munato yichye » comme la grand-mère là-bas qui allume les bougies, elle est à Ibiza en train de faire des sessions et tout ça sur la plage. Le vendredi soir, elle finit son truc et elle va faire des danses folkloriques là-bas au Pacha. Il dit avec les cerises et tout ça. Il dit, les gars, vous croyez, je vois qu'il y en a qui ont pas lu parce qu'ils ont entendu la blague tout à l'heure, ça leur a rappelé de mauvais souvenirs. Alors, mais c'est pas grave, celui qui fait tchouba, on leur efface toutes ses fautes, Rabotai. Donc tu vois, la femme, elle dit, ouais, j'ai la Emouna, elle a fait le Yom HaShishi devant la finale de la Coupe du Monde et tout ça. Ouais. Elle a mis le show view et tout ça pour enregistrer ça la finale, la minuterie et tout ça. Ouais. C'est bon, j'ai la Emouna, je dis qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Ah oui, mais tu dis qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et en même temps, t'es en inadéquation et pas en phase là, avec ce que tu dis. Donc, choisis de deux choses l'une. Soit je suis la preuve de ce que je dis, soit je suis un prêtre. Fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Mais si toi tu veux être quelqu'un qui s'appelle Ma'amin, Ben Ma'amin, alors tu dois être le reflet de ta Emouna, le reflet de ta foi. Ça veut dire qu'à travers ton comportement, les gens ils te voient, ils doivent revenir à la Tchouva, ils doivent revenir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça qu'on rapporte sur des Gdolim comme le Gaon de Vilna. Avodai, le Gaon de Vilna, il explique là-bas que tout celui qui a vu le Gaon de Vilna dans sa vie et tout ça, il a fait teshuva dans sa vie. Il dit pourquoi il a fait teshuva dans sa vie? Parce qu'on l'a fait profiter aussi, c'est ma femme. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai un peu froid là, je te rappellerai plus tard. Je suis trop trop occupé, il y a trop de monde là, ils sont trop magnifiques. Il y a mon fils qui m'encourage et tout, il pose des cris de joie. C'est magnifique. On est retransmis en direct sur satellite, Rabotai. Ça fait plaisir, TPS. La religion à la carte. Vous connaissez? Eh ouais, c'est celui qui dit qu'il a la Emouna mais qui fait pas tout. Il s'appelle TPS, c'est le partisan de TPS. Ça, il a l'abonnement. Il dit ça, c'est bon, je le prends, mais ça, je le prends pas parce que ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Donc en fait, le gars, il est au centre de l'image, ouais. Et donc, il essaye d'adapter la religion à sa personne. C'est pas, il place pas Kadosh Baruch Hu au centre de l'image. Il se place à lui au centre de l'image et il adapte la Torah à sa vie. Mais en fait, c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut que nous, on s'adapte à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a prévu pour nous. Et à la khat, kama, quand on sait que cette chose-là, c'est la meilleure chose pour nous et qu'on peut vivre dans la lumière et la jouissance éternelle, dans l'olamazé, dans l'olamaba. En fait, les gens les plus heureux du monde, je voulais démontrer en une petite comparaison là-bas sociologique de Robert Castel et les siens. S'il y en a qui étudient la sociologie, voient à qui je parle. Donc, je vous ai dit, là-bas, on compare deux personnes et ça, de niveaux sociaux différents et pourtant, on voit comment il y en a un qui est heureux et un qui est malheureux. Donc j'étais en train de vous dire, juste avant que j'ai ce petit coup de fil impromptu, je pensais que j'allais avoir une petite ristourne au niveau du temps, c'est pour ça que j'ai répondu, vous ne croyez pas que... Puisque j'ai un chiot après pour les femmes, s'il y en a qui veulent venir avec nous, je parlerai de la reconnaissance envers Hachem. Je vous prends un quart de Vietnamien là-bas qui nous attend à la sortie, ou de Chinois. Là-bas, je vais partir chez le Rav Ohana, il y a un chiot là-bas qui va bombarder comme il faut et tout ça. Mais je sais que les garçons, ils vont m'en vouloir et ça, parce que peut-être il y a des mariages qui s'organisent ce soir. Mais s'il y en a qui sont déjà casés ou qui sont pas en âge de se marier, ils peuvent venir avec moi après dans le chiot à 9h. Donc j'étais en train de vous dire, je vais tout de suite passer à ce que j'étais en train de vous dire de Tzadik Vimunato Yehi. Tzadik Vimunato Yehi, on te dit, c'est pas le gars, il est en train de faire le kidouche devant la finale de la Coupe du Monde et il dit oui, moi je crois en Hachem. Il dit Tzadik. Alors vous dites, c'est quoi Tzadik? Tzadik, celui qui fait la Torah. Bemunato Yehi. Sa Emuna vérifie, sa Tzidkut, elle vérifie sa Emuna. Le fait qu'il pratique la Torah et qu'il fait les mitzvot, c'est le vérificateur de sa foi. Mais si jamais l'un et l'autre, ils peuvent pas aller ensemble. Et c'est quoi Tzadik? Tzadik, il nous dit Rabbeinu Yonah, mes chers frères et mes chères sœurs. Il nous dit le Rabbeinu Yonah que Tzadik, c'est celui qui est meilleur aujourd'hui que ce qu'il était hier. On n'a pas envie de devenir le Tzadik Adore, le Gadol Adore, de pratiquer toute la Torah du jour au lendemain et de ça, de devenir Mahboul et tout ça. Ça y est, tu vas faire toute la Torah Kula, tu vas plus savoir où t'habites et tout ça, t'es déchiré. Chaque jour t'avances, chaque jour tu te renforces, chaque jour t'es meilleur que ce que t'étais la veille. Ça s'appelle que t'es un Tzadik. Alors là, ta foi, elle te permettra de vivre à la fin. Et mes chers frères, je vous assure, l'épreuve de la fin des temps, c'est la foi. Il nous dit le Rav Noam Elimelech, il dit c'est quoi Chevle Shel Mashiach? Les douleurs de l'enfantement du Mashiach, c'est quelque chose de terrible et de très difficile à vivre. Et moi, je suis venu vous faire des feintes et tout ça, mais je suis venu aussi vous dire la vérité parce que je vous aime et je veux vous sauver. À la fin des temps, ce sera comme à l'acquisition, Chas v'Shalom, pendant la Shoah. On va prendre des gens et on va leur infliger des traitements de défaveur très difficiles. Ça va être dur. C'est des douleurs physiques qu'on va nous infliger. On va nous demander de renier la foi à Kadosh Baruch Hu. Rabotai, celui qui n'a pas vécu toute sa vie avec Hachem, qui ne s'est pas attaché à son Créateur, qui n'avait pas la foi enracinée au plus profond de son être et de son âme, il ne pourra pas tenir à ce moment-là. On lui dira, est-ce que tu veux mourir juif ou est-ce que tu veux vivre comme un crétin ou un chrétien, pardon. C'est enfin, la plus révélateur et tout ça. Excusez-moi, parfois je ne sais pas très bien avec les figures de style et tout ça, je deviens un peu ma bouche. Donc il dit, est-ce que tu veux vivre comme un crétin ou est-ce que tu veux vivre juif, est-ce que tu veux mourir juif et tout ça? Alors Wada, qui c'est qui est capable de dire une chose pareille? Oui, je veux mourir. Je préfère mourir dans la vérité que de vivre dans le mensonge. Qui est capable de dire une chose pareille? C'est quelqu'un qui est convaincu à 100% que la Torah c'est le Emet. Quelqu'un qui a enraciné la Emouna dans son cœur et qui s'est renforcé toute sa vie. Qui s'est battu pour pouvoir atteindre la dvekout et l'attachement à Hachem Yitbarach. Lui, il pourra être prêt à malgré tous les coups qu'il va prendre, malgré toutes les épreuves qu'il aura, malgré toute la difficulté qu'Akadosh Baruch Hu va vivre dans le Ester Panim, dans la face cachée d'Hachem, dans l'obscurité la plus profonde, dans la pénombre la plus obscure. Il dit, le gars, il va continuer à dire, moi, j'ai vécu avec Hachem, j'ai vu la lumière d'Akadosh Baruch Hu, j'étais fou de joie, j'étais euphorique quand je vois qu'Akadosh Baruch Hu m'a sauvé la vie par sa Torah. Je suis prêt à donner ma vie pour Hachem parce que je sens que je suis redevable de lui. Je sais que c'est lui qui m'a donné la vie. Mais Rabouda est quelqu'un qui a vécu la Torah en demi-teinte, qui ne s'est pas renforcé sur sa Emouna et son Bitachon, qui n'a pas travaillé toute sa vie. Il arrivera à cette épreuve de la fin des temps. De la même façon que nos frères en Égypte, il y en a un cinquième qui est sorti. Les quatre cinquièmes, ils sont morts là-bas. Là-bas, on dit que dans le Navi, je crois, dans Yermia, on fait des parallèles. Le Shomer Emunim, il les ramène. Il y a des parallèles qui sont effectués entre la fin des temps et la sortie d'Égypte. Et on dit qu'il y aura un dixième de personnes qui vont survivre. Aoudaï, quand on voit combien nos frères ils sont perchés et qu'on a le srout, nous, Baruch Hashem, d'avoir le mérite d'entendre des shiurim de Torah, de se renforcer, de se battre, de faire la Avodat Hashem, de se rapprocher de notre Créateur et tout ça, et bien on peut peut-être faire partie de ce dixième. Parce que nous, on est à Marseille, on se dit, regardez, nous, on étudie un peu la Torah, on voit des gens qui sont tellement loin et ça, ils habitent à Carpentras ou à Avignon là-bas, ou à Chambéry là-bas, ou à Strasbury même. Ouais. C'est la fraise en Chambéry, c'est la fraise en anglais en fait, Strasbury, man. Donc le gars, il est là-bas depuis très longtemps. Et ça, qu'est-ce qu'il fait de sa vie, le gars? Il est là-bas. Je te dis, ouais, peut-être moi. Mais Rabbi, je vais t'amener là-bas à Bnei Brak. Tu vas voir des gars qui étudient jour et nuit, qui se battent et qui accomplissent la Torah de Messirot Nevesh 100 centimes dans la poche. Et les gars, c'est des roches yeshiva, des lumières de la génération, et ils sont en train de frotter le parterre du Beth Amidrash pour que ça brille et pour qu'il y ait le Gvod Hashem. Arbotai, quand tu vois des gens comme ça, tu te dis, pour faire partie du un dixième qui va survivre, combien il va falloir que je donne? Combien il va falloir que je m'accroche? Combien il va falloir que je me batte? Et combien il va falloir que je fasse aussi attention aux gens qui sont autour de moi? Les gars, pourquoi ils sont morts là-bas en Égypte? Parce qu'ils se sont dit, on va sortir dans le désert. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour manger? Comment on va faire pour pouvoir boire? Qu'est-ce qu'on va devenir là-bas? Ils ont commencé à avoir des doutes dans leur Emouna et dans leur Bitachon. Dit Habibi, ils ont fait chemin inverse, ils se sont retournés, ils ont perdu la guerre. Mais celui qui est à la fin des temps aussi, s'il n'a pas sa Emouna qui est blindée, qu'il n'a pas renforcé sa Emouna et son Bitachon Bachem, il ne pourra pas survivre. Je vous explique un petit concept magnifique le passage de la fête de Pourim à la fête de Pessah. On sait que c'est marqué là-bas, Shoshana shel Yaakov tzala vesmecha. Chaque fois qu'on fait la Megillah chez les Ashkenazim, on chante une chanson, ça s'appelle un poème, et on dit la rose de Yaakov, elle s'est réjouie et elle était très heureuse. On peut se demander une question, quel est le rapport entre Yaakov Avinu et la fête de Pourim? On n'a pas bien compris cette chose-là. La deuxième chose qu'on pourrait se demander, comment ça se fait que le Shabbat Agadol, il s'appelle Shabbat Agadol? C'est bizarre, ce Shabbat, on ne comprend pas très bien pourquoi il s'appelle Shabbat Agadol. La réponse à cette question, elle est liée. On sait que les Bnei Israël, au temps de Pourim, ils ont fauté sur une chose. Ils ont fauté sur la Emunat Chachamim, sur la foi dans les sages. Ils se sont affaiblis dans la foi dans les sages, et à cause de ça, ils ont été dans un très très grand danger. Et quand on voit avec un œil d'observateur de la diplomatie et des relations internationales et de la politique et tout ça, et du sondage de l'Audimat et tout ça, on n'a pas du tout l'impression qu'ils ont fauté dans la foi dans les sages. Vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? Mordechai, qui était un ultra-orthodoxe de l'époque, ouais, c'était le marmire de l'équipe, c'était le gars qui était très rigoriste dans sa pratique religieuse, il a dit au Bnei Israël, attention mes frères, n'allez pas dans le festin qui est organisé par Achashverosh parce que ça sent le roussi là-bas. La Torah vous demande de ne pas aller là-bas. Alors les gars, ils ont dit, attends, mais Habibi, t'es un marboul. Il dit, d'après le droit international, si jamais on va pas là-bas, ça s'appelle un crime de lèse-majesté, ça s'appelle un crime de rébellion contre la royauté, tout ça. Ils vont dire, voilà, tous les peuples des nations sont venus à la fête du trône, et les juifs font preuve de rébellion contre la royauté, donc si jamais on va pas là-bas, on va se faire couper la tête. À ce moment-là, il leur a dit, je vous dis de ne pas y aller. Les gars, ils sont quand même allés. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tout était les madrines, hein, la Hashgacha, elle était très bien et tout ça. Il y avait les femmes et les hommes d'un côté, sauf qu'on a vu Vashti après arriver dans une tenue très folklorique et tout ça, extravagante. Là-bas, elle était très fraîchement vêtue, comme on dit chez nous. Et après, il a commencé à avoir des problèmes. Achashverosh, il est venu avec l'habit du Kohen Gadol. Il a commencé à manger dans les kélim du Beth Amikdash qui avaient été détruits auparavant. Il y a eu un très très grand mépris de la Torah et des mitzvot. Et là, il s'est passé des choses très graves. Quelques temps plus tard, les Bnei Israël, il y a 9 ans qui est passé après. Ouais, 9 ans sans que rien ne se passe. Tout allait bien. Pendant 9 ans. Donc les gars ils se disent, ben, ça va, regarde Akadosh Baruch Hu, il n'a rien contre nous, puisque 9 ans on était tranquille, donc il n'y a pas de problème. 9 ans plus tard, comme on a dit, Mordechai, qui était le marmire de service, Aman veut passer devant lui, c'était un homme très influent et très important là-bas, et il voulait que tout le monde se prosterne devant lui. Et Mordechai, Agdinamok, tu bouges pas, et il a dit, Habibi, t'as beau rester jusqu'à demain et tout ça, Hal la chèvre de Monsieur Seguin et toi, si vous êtes la même chose, de la même façon que je ne me prosternerai pas devant la chèvre et tout ça de Monsieur Seguin avec sa barbiche de sous-officier, toi tu peux passer jusqu'à demain, je resterai devant toi, je ne me prosternerai pas. Le lendemain de ce petit périple, mes chers amis, de cette petite boutade diplomatique, de cet incident diplomatique et tout ça qui a fait un tollé général dans la presse et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Convocation des Bnei Israël et envoi expédition de la missive d'extermination et de la solution finale de tous les Bnei Israël. Rabotai, je vous pose une question que le Rav d'Esther demande dans le Mirtav Meliaou, dans le premier tome, à la page 72, je crois, si mes souvenirs sont bons. Il dit là-bas, quelqu'un qui voit cette situation, il se demande, est-ce qu'il va se dire, c'est à cause du fait que 9 ans plus tôt, on est parti dans cette Seouda de ce Nzrob, ou est-ce que c'est parce que la veille, ce Mahboul là-bas de Mordechai, il ne s'est pas prosterné devant Aman? N'importe quel esprit éclairé et avisé dirait, mais bien sûr, c'est parce que Mordechai ne s'est pas prosterné, voilà, il a fait un crime de lèse-majesté de ça et on a été tué. Donc c'est à cause de la Torah finalement. Quand on a transgressé la Torah, on était tranquille. Mais quand on a commencé à respecter la Torah et de ça, sachant que c'était une mesure de piété parce que ce n'était pas vraiment de l'idolâtrie, ben là, à ce moment-là, on s'est fait exclamer la tête. À Bouddha, c'est comme ça qu'on aurait dû réfléchir. Et bien de la même façon, les Bnei Israël, ils n'ont pas réfléchi comme ça. À ce moment-là, ils ont fait échouva. Les Bnei Israël se sont rappelés de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, mes chers frères, c'est le shiur dans Parasha Vayetse, Vaishlach, à la page 59 dans le livre ici. La gravité de la faute remet en cause les promesses d'Hachem. Elle dit là-bas que Yaakov Avinu, quand il est venu à la rencontre de son frère, Esav, il a envoyé des malachim, des anges. Et Yaakov Avinu, c'est marqué dans le verset là-bas, Vaïra Yaakov Neod. Yaakov, il a tremblé beaucoup, il a commencé à avoir très peur. Et ici, on peut se poser une question. Comment ça se fait que Yaakov Avinu, il a peur? Pourquoi Yaakov Avinu, il commence à trembler alors qu'il a une promesse d'Hachem Yitzbarach? C'est marqué quand il a fait le rêve de l'échelle. Vous vous rappelez quelque temps auparavant, quand il est sorti des 14 années d'études intempestives qu'il a étudiées de toutes ses forces. Akadosh Baruch Hu s'est révélé à lui et il lui a dit là-bas dans le verset, « Veine anochi imach, je serai avec toi mon fils Yaakov, ushmarticha bechol asher teler, je te garderai là où tu iras, qui lo ezofra, je ne t'abandonnerai jamais. » Et Rabotai Yaakov Avinu, il vient fort de cette promesse d'Hachem Yitzbarach et il tremble devant son frère. Que son frère, il voulait se venger de lui, qu'il avait pris le droit d'aînesse et tout ça. Il dit, comment c'est possible, toi tu viens avec la promesse d'Hachem et t'as peur? Deuxième chose, on sait qu'il est venu avec 2 anges. C'est marqué là-bas, il est venu avec Mahanaïm. Vous savez ce que c'est Mahanaïm, nous disent nos commentateurs. Mahanaïm, c'est 40 millions de malachés à charrette. 40 millions d'anges de service. À Wodaï, un ange de service, il a suffi à déchirer toute la ville de Sodome et Gomorrhe. Il vient avec une armée redoutable de 40 millions de personnes qu'on n'a jamais vues dans notre vie. Un gars, il arrive avec une armée comme ça, mais il est refait. Personne ne peut s'approcher de lui. Yaakov Avinu vient avec une promesse d'Hachem. Avec une armée de 40 millions, il commence à trembler. Pourquoi ? Le Rav Yaakov Bardi, dans la Gemara, dans Masechet Brachot, à la page 4, folio B, nous dit, chez Maï Gromachet, il avait peur, Yaakov Avinu, que comme il sortait de chez Lavan, où il avait travaillé pendant 20 années, et que Lavan, c'était le plus obscurantiste de toute l'histoire de l'humanité, un homme qui était un rachat merusha, plein d'obscurité, plein de haverot, il a eu peur que dans son giron, il soit influencé par ses mauvaises midotes, par son mauvais comportement, par son vol, par sa malhonnêteté, par toutes les mauvaises midotes qu'il avait. Et il s'est dit, Yaakov Avinu, mes chers frères, si jamais j'ai commis une faute, alors les promesses d'Akadosh Baruch Hu ne peuvent pas tenir. Et les 40 millions ne serviront à rien si Hachem n'est pas avec moi. Yaakov Avinu nous apprend un yesod extraordinaire. J'ai beau avoir 40 millions de personnes avec moi, j'ai beau avoir l'armée la plus puissante du monde, j'ai beau avoir la promesse d'Hachem Yitbarach, si je ne garde pas et que je ne suis pas fidèle à la volonté d'Hachem, toutes ces choses-là ne me serviront à rien. Et les Bnei Israël, à ce moment-là, ils ont fait Teshuva parce que les Bnei Israël, ils viennent de Yehudi. Yehudi, c'est Yehuda. Yehuda, c'est celui qui vient du Lachon Oda, de la reconnaissance de ses torts, de la reconnaissance de ses fautes. Quand on fait du moussard à un frère d'Israël, il se remet en question. Il voit, oui, j'avais tort. Oui, j'ai admis mes erreurs. Pas comme tous ces mahboulim là-bas qu'ils veulent pas. Moi, je me rappelle, j'étais avec des professeurs de l'université. Ils étaient tellement imbus d'eux-mêmes. Une fois, je lui ai dit qu'il a fait une faute sur le procès de Nuremberg. Le gars, il a fait un arrêt de maladie de 3 semaines. Il pouvait plus mettre les pieds. Il a dit, il y a un mal au truc. Il s'est permis de remettre ma parole en doute et tout ça. Ce petit morveux là-bas et tout ça. Habibi, je t'ai amené la déclaration de Balfour et la déclaration du procès de Nuremberg et tout ça. Je te montre le truc. Pourquoi tu fais le marbou? Celui qui a des midot raot et qui a de la gava, il peut pas admettre. Mais les Bnei Israël, c'est la chan oda. Celui qui reconnaît le tort. Et les Bnei Israël, à ce moment-là, ils ont fait un raisonnement par a fortiori. Ils ont commencé à trembler. Et la rose de Yaakov, elle s'est réjouie. Ils sont ici déjà Yaakov Avinu. Avec les 40 millions de gens qu'il avait, et avec la promesse d'Hachem, et avec la tzidkout que Yaakov Avinu il avait de quoi trembler. À la khat kama avec Amanou, à plus forte raison, qui avons fauté, qui sommes allés dans ce festin là-bas avec ce mzrob de Achashverosh et toute sa tribu, et qui n'avons 40 millions de gens qui sont contre nous, combien on doit trembler? Et les Bnei Israël, ils ont compris à ce moment-là que c'est la tfila qui sort les Bnei Israël de la pénombre. Ils ont dit, on a beau avoir 40 millions de gens avec nous et la promesse d'Hachem, ça ne sert à rien si Hachem n'est pas avec nous. Mais on a beau avoir 40 millions de gens contre nous et on a fait des avérotes, mais si on revient à Bitshuva et qu'on appelle Hachem Yitbarach, Mimamakim Keratzir Hachem, j'appelle des plus grandes profondeurs et de l'obscurité, de la pénombre, j'appelle Hachem Yitbarach, je sais que la lumière elle va jaillir d'ici. Il dit à ce moment-là, je sais qu'Akadosh Baruch Hu va me sortir de là, Akadosh Baruch Hu va m'aider. Et c'est ce qui s'est passé, Rabotai. Tout s'est inversé, Vena Forhu, tout s'est inversé, les agresseurs sont devenus les agressés, les victimes. Et les Bnei Israël, ils ont été sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi et la confiance en Hachem. De la même façon, on voit, c'est marqué sur Shabbat Agadol. C'est quoi ce Shabbat Agadol? Pourquoi il s'appelle ce Shabbat Agadol? On comprend pas ce mot-là. Comment ça se fait qu'il s'appelle Shabbat Agadol? Shabbat Agadol, c'était un moment où les Bnei Israël, ils ont pris des agneaux pascal, Allah Vashkiri, là-bas, ils l'ont attaché avec Milka. Mais il n'y avait pas la bombe violette à l'époque et tout ça. Ils ont pris, c'était la divinité des peuples égyptiens. Ouais. Donc ils ont voulu faire le tourner un peu en ridicule. Imaginez-vous maintenant, nous on est à la place des Égyptiens. Ouais. On est à la place des Bnei Israël. On est dans un pays d'accueil. Ouais. On est des gens qui sont accueillis et on est des esclaves. On va prendre l'objet de culte et de divinité du pays qui est le dominateur et qui est la puissance la plus grande au niveau international et on va lui sacrifier devant ses yeux. Il dit, qui c'est qui est capable de faire une chose pareille? Et les Bnei Israël, Rabotai, nous dit le Rav Yecheskel Levinstein, le Machgar de Poniovitch. Il est aussi, il avait sa photo là-bas, mais j'ai pas le temps même d'ouvrir la page, j'ai pas le temps, c'est dommage. Donc vous l'ouvrirez vous aussi, Bedrat Hashem. Il dit, le Rav Yecheskel Levinstein, il dit que les Bnei Israël, ils étaient remplis de Avodazara, parce qu'ils avaient vécu avec des Ovdi Avodazara, avec des idolâtres. Quand tu vis avec un idolâtre, tu deviens idolâtre. Quand tu vis avec des lumières, tu deviens une lumière, c'est comme ça. Dis-moi, je vous avais dit que cette eau-là, elle prêtait à confusion. C'est une trahison, là. Le filtre, il est en train de s'accomplir là-bas. Il a dit comme ça, si tu vis avec des gens, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, tout ça. Eux, ils ont vécu avec ces gens-là. Quelle était l'épreuve pour qu'ils puissent sortir d'Égypte? On sait qu'il y avait un ange là-bas, il s'est énervé contre Hachem. Il a dit, ceux-là, c'est des idolâtres, ceux-là, c'est des idolâtres. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire le tikkun de l'idolâtrie. C'est quoi le tikkun de l'idolâtrie? C'est quoi l'idolâtrie? C'est de croire qu'il y a plusieurs forces qui dirigent le monde. Les Bnei Israël, Rabotai, se sont renforcés à ce moment-là. Ils ont dit, on va prendre l'objet de divinité du peuple. égyptien. On va le prendre et on va le sacrifier devant tout le monde, devant qui veut le voir, devant toutes les personnes et tout ça. On va faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu et on sait que si on fait la volonté d'Hachem, on trouvera grâce aux yeux des peuples et des nations. Et les Égyptiens, pendant 4 jours, ils sont restés pétrifiés. Ils ont eu peur devant les Bnei Israël. Pourquoi ? Parce que quand tu fais la volonté d'Hachem, tu trouves grâce aux yeux du monde entier. Rabodaï, c'est le même Yesod. Celui qui nous a sortis de Pessah, celui qui nous a sortis de Pourim, celui qui nous sortira de la fin des temps, c'est la Emouna et le Bitachon Bachem. Et je termine, je vous assure que ce cours-là, il dure encore une heure au moins, mais c'est pas grave, parce que je dois m'enfuir dans quelques instants. Je finis sur une histoire magnifique. Vous savez, on voit, c'est un ridouche que j'ai découvert dans la paracha, quelque chose de magnifique. C'est marqué, on voit que les Bnei Israël, à l'époque, ils gardaient le Shabbat. Et je vous invite tous à faire le Shabbat, Rabotai, à faire faire le Shabbat à tous les gens qui sont autour de vous. Parce que si on garde un Shabbat de la meilleure façon qu'il soit, il dit le Midrash, il dit ma chère, directement il va venir. Si tous les Bnei Israël ils gardent le Shabbat, Akadosh Baruch Hu nous envoie la Yeshua et le Mashiach, il va restaurer son règne et on va être heureux, on va vivre en plénitude avec lui. On va vivre dans la lumière et chacun il arrêtera d'aller à Wall Street et tout ça. Il viendra étudier la Torah, il sera le plus heureux du monde et ça, on sera refaire à Botaï. Il dit, les Bnei Israël de l'époque, chaque fois ils gardaient le Shabbat. Moshe Rabbeinu, il s'est posé comme un syndicaliste là-bas. Il leur a dit, vous savez, il faut faire les RTT et tout ça. Si jamais vous ne donnez pas un jour de repos au peuple, c'est pas possible. Le peuple, il ne pourra pas être rentable dans le. Et un jour, les Bnei Israël, ils ont commencé à vouloir servir Hachem, ils sont allés là-bas. Et Pharao, contre toute attente, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a annulé le Shabbat. On se demande pourquoi il a annulé le Shabbat ? Parce qu'il a vu que les Bnei Israël, le Shabbat, qu'est-ce qu'il faisait ? Il s'entretenait avec des Megillot qu'ils avaient reçus de Avotenu Akdoshim. C'était des livres dans lesquels on leur promettait d'être libérés. Et eux, ils se renforçaient, ils étudiaient cette chose-là. Et à ce moment-là, tout le monde était content et ça, ils étudiaient ce texte et les autres. Et Pharao, il a eu peur. On peut se demander. Et Pharao, non seulement il a eu peur, il leur a dit, maintenant vous ne faites plus le Shabbat. Donc on peut comprendre que c'est un problème de choix stratégique. Parce que si tu dis qu'ils sont rentables quand ils arrêtent un jour par semaine, alors arrête. Laisse-leur se reposer un jour par semaine. Et deuxièmement, on voit que Pharaon, il a commencé à parler contre les Bnei Israël. Il leur a dit, « Ve'alishou bedivrei shaker ». Quand les Bnei Israël sont venus, Moshe et Aaron, qui étaient les patrons là-bas, ils sont venus lui demander d'aller dans le désert pendant 3 jours pour aller faire des sacrifices. Il leur a dit, « Arrêtez de vous entretenir de paroles de mensonges ». Il a commencé à railler la Torah. Alors vous allez me demander 2 questions. Première question, comment ça se fait que les Bnei Israël, Pharaon, il voit qu'ils travaillent bien comme ça, pourquoi il arrête le Shabbat ? De quoi il a peur ? Et deuxièmement, il vient, il les raille. Mais qu'est-ce qu'on a à faire ? Ils n'ont qu'à parler jusqu'à demain. On sait que l'Égypte, c'était la prison la mieux gardée au monde. Personne ne pouvait s'échapper de là-bas. Alors qu'est-ce que tu en as à faire ? C'est des fantasmes de vouloir être des gens libres. Personne ne pouvait sortir de là-bas. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je me suis posé cette question. Qu'est-ce qu'il a, Pharaon, à leur faire du moussard, à leur dire non, mais ça, c'est des paroles futiles et tout ça. Arrêtez de vous adonner à ces paroles futiles. Et maintenant, vous allez travailler même le Shabbat. De quoi il avait peur, Moray Rabotai ? Écoutez bien ce Yesod Rabotai, c'est le Yesod le plus extraordinaire de toute la Torah. Moi, d'après moi, c'est la chose la plus extraordinaire et c'est de ça dépend la survie du peuple d'Israël. Il savait, Pharaon, que c'est en fonction, à l'inverse de Mal Saint Thomas d'Aquin, ce marboule là-bas de Mal Saint Thomas, il dit « Je crois que ce que je vois ». Il dit « Nous, on voit que ce qu'on croit ». Il savait, ce Mzrob de Pharaon, que si les Bnei Israël, ils se renforcent le Shabbat, qu'ils s'unissent autour de la Torah et qu'ils croient d'une foi pleine et entière qu'Akadosh Baruch Hu, il les fera sortir d'Égypte, c'est par ce mérite de cette foi et de cette confiance qu'Akadosh Baruch Hu, il la fera sortir. Et c'est quelque chose de merveilleux. Si quelqu'un y croit d'une foi précieuse, intègre, et de tout son cœur qu'une chose elle est capable, eh bien Akadosh Baruch Hu, il la réalise parce que c'est en fonction de notre foi qu'on fixe notre destinée. Donc Pharaon, il a dit, si jamais je ne décrédibilise pas cette chose-là, ils vont commencer à se renforcer le Shabbat. Ils vont commencer à parler de cette chose-là. Et par le mérite de leur foi, Akadosh Baruch Hu, il va les faire sortir. Moray Berabotai, j'aurais bien voulu vous dire un Rabbeinu Yonah sur ça. Je vous le dis, ce Rabbeinu Yonah, je ne peux pas, c'est pas possible, je ne peux pas vous dire que ce Rabbeinu Yonah, il est trop important. C'est marqué là-bas, frère d'Adam, il t'aime, je vais voter Bachem Yisugav. Celui qui a peur, il se met lui-même dans le piège. Et celui qui a confiance, il éteint le feu. Il y a un terroriste du djihad islamique qui est en train de rentrer, Chas V'Shalom, ici. Le gars, il commence à courir vers toi. Si toi, tu as peur, c'est toi qui lui donnes la faculté de s'exploser parce que lui ne peut rien faire sans la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme si tu prenais de l'huile ou de l'essence et tu le jettes sur le feu et tu rapproches la tsara de toi. Mais si par contre toi tu te renforces dans la Emouna, dans le bitachon, c'est comme si tu prenais un extincteur et le gars il devient impuissant. Il nous dira Rabbeinu Yonah sur place, si quelqu'un il est en train de prier, il se renforce sur la Emouna et sur le bitachon Bachem, à ce moment-là il place toute sa confiance et sa foi et tout son cœur vers Hachem Yitbarach. Il dit, je sais à Kadosh Baruch Hu que c'est toi qui le protège dans le ciel, on est en train d'ouvrir son dossier, on est en train de le juger. Il lui faut une mitzvah, la mitzvah du bitachon Bachem, de la confiance et de la foi à Hachem. Il dit, sans fila, même s'il y a un décret qui a été décrété depuis 70 ans, si lui, dans son cœur, il dit, Enod milevado Hashemu Elohim, il annule toutes les forces, sont nulles et non avenues, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde, il dit là, il désintègre et il désamorce la bombe. Si par contre il a peur, la avéra qu'il a, c'est ça qui va être gourem la chose. De la même façon, Rabotai. On sait que si jamais nous on se renforce dans l'aïmouna et dans le bitachon Bachem, voilà, on est à la fin des temps. On sait qu'on a des grands gens qui se. Le Nanjarda Ahmadinejad, il s'est levé, il a dit on va espacer Israël de la carte. Rabotai, la fin des temps, c'est une guerre, c'est pas une confrontation frontalière. Les chefs d'état-major, ils sont venus chez nos rabbanim. Il y a aujourd'hui, hier, Shimon Peres qui était chez tous les Gdolé Israël. On voit que les gens de plus en plus sont en train d'admettre que la solution n'est pas entre les mains de la guerre, de l'armée, du conflit. Les gars, ils viennent avec une bombe atomique, t'as beau avoir la meilleure armée du monde. Si jamais on crie de toute notre force, on sait qu'Akadosh Baruch Hu ne nous abandonne pas, qu'Hachem il est avec nous, Rabotai, qu'il est à nos côtés, qu'on garde sa volonté, qu'on fait sa volonté, qu'on est ses serviteurs, et qu'on lui montre Hachem, je sais, je te crains, j'ai la crainte du ciel, j'ai l'amour de toi, et pour te prouver, je suis prêt à faire de ta volonté ma volonté, je suis prêt à m'allumer devant toi. Il dit là, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il attend que ça, Rabotai. C'est marqué que les Bnei Israël, ils ont cru en Hachem, et Hachem il est sorti. De la même façon, Pharaon, il a compris ce Yesod Rabotai, il faut que nous aussi on le comprenne. Si aujourd'hui on est prêt à chacun renforcer un de nos frères du Ham Israël, de nous battre et de nous renforcer dans la Emouna et dans le Bitachon, de renforcer nos frères pour qu'on avance tous ensemble vers ça, à Kadosh Baruch Hu, on lui dit Ribono Shalom, on sait que c'est toi qui as les solutions entre les mains. Et pour toutes les choses, on va commencer à faire des tefillot du plus profond de notre cœur. Hachem Alamakom, il nous envoie le Mashiach Rabotai, et on va voir le troisième Beth Amikdash.